Je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre Bible dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Nous ferons la lecture du verset 19, Philippiens 1, 19. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un espèce de message de récapitulation de plusieurs enseignements apportés au travers de ces années sur le ministère du Saint-Esprit. Et je me suis rendu compte, mais enfin, vous le savez aussi, que ce ministère qui est riche, varié, extraordinaire, est souvent aussi mal compris. Et ça amène beaucoup de confusion, beaucoup de mélanges, de distorsions, voire même d'incompréhension, de disputes entre les différentes églises, entre les différentes doctrines. Et donc aujourd'hui, comme Paul l'écrit ici, je voudrais vous parler de l'assistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit en faveur des hommes. Et je voudrais le faire d'une manière qui soit le plus simple et la plus claire possible pour que vous puissiez vraiment garder ces choses dans votre cœur et pouvoir non seulement les expliquer, mais aussi donc les comprendre et les vivre. Ok ? Faisons la lecture de ce verset. Tout simplement, Paul écrit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » L'assistance du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit en faveur des hommes. Alors, je vais parler aujourd'hui de quatre temps du ministère du Saint-Esprit. Quatre temps. Et pour être le plus simple possible, voilà ce que sont ces temps. Le premier, c'est le ministère du Saint-Esprit pour nous. Le second, en nous. Le troisième, avec nous. Le quatrième, sur nous ou à travers nous. C'est pas compliqué, hein ? Pour nous, en nous, avec nous, sur nous. Et à chacun de ces temps que nous allons étudier en détail, je vais ajouter un mot clé. Pour nous, c'est le ministère de conviction. En nous, le ministère de renouvellement. Avec nous, le ministère d'assistance. Et sur nous, le ministère de puissance. Conviction, renouvellement, assistance, puissance. J'espère que les choses seront suffisamment claires pour que ça devienne une évidence en vous et que vous puissiez comprendre davantage encore ce que le Saint-Esprit veut faire avec vos vies. Ok ? Alors, première étape, premier temps, première facette du ministère du Saint-Esprit pour nous. Depuis que Jésus a répandu l'Esprit sur l'humanité, c'est-à-dire depuis qu'il s'est assis à la droite du Père, le Saint-Esprit est présent et agit dans le monde entier. Et il n'est pas une distance, une frontière fermée, gardée même par des hommes armés. Il n'est pas un régime dictatorial, politique ou religieux qui puisse empêcher la présence et l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, emprisonné, écrivait que la parole de Dieu n'est pas liée. Et nous pourrions dire la même chose du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas lié. Nul ne peut lier, empêcher le Saint-Esprit. Et depuis 2000 ans, en tout lieu, en tout temps, en toute génération, le Saint-Esprit appelle, équipe et envoie des hommes et des femmes pour prêcher l'évangile de Jésus à toutes les nations de la terre. Et lui agit à travers eux en faveur des hommes. Ok ? Maintenant, si aucun témoin ne peut se rendre dans un lieu particulier, et il y a des lieux qui sont difficilement accessibles pour les témoins de Jésus-Christ, il agit alors, et nous bénissons le Seigneur pour les moyens technologiques qui existent aujourd'hui, il peut agir à travers la radio, l'internet et la télévision. Nous venons d'en parler il y a quelques instants et nous savons que dans bien des pays où il est difficile de vivre publiquement sa foi, d'entendre la prédication de l'évangile, heureusement qu'il y a la télé. On pense au pays du Maghreb et à bien d'autres endroits où l'évangile peut ainsi pénétrer les foyers. Gloire au Seigneur pour la technologie. Rappelez-vous toujours que l'imprimerie a permis à la Bible d'être diffusée en grande quantité, que le premier livre imprimé fut sur la Bible, fut la Bible. Gloire au Seigneur pour ça. Et si aucun moyen humain ou technologique ne peut atteindre tel ou tel homme, telle ou telle région, lui, le Saint-Esprit, agira alors directement, personnellement et miraculeusement. Et nous avons tous entendu des témoignages de visitation de l'Esprit dans des endroits où il nous serait très difficile d'aller. Un jour, je disais, bien naïvement, « Seigneur, est-ce qu'il peut vraiment y avoir des chrétiens en Somalie ?» Et puis un jour, j'ai vu ce témoignage, et oui, il y a des chrétiens en Somalie. Ma foi, c'était un compte rendu assez terrible, parce que c'était quelqu'un qui avait été persécuté et mis à mort pour sa foi. Je me dis, Seigneur, il y a des chrétiens. Oui, il y a du témoignage de Dieu en Somalie, en Afghanistan. Et savons que même le Seigneur s'est révélé là auprès de pèlerins musulmans à La Mecque. Gloire à Dieu, qui pourrait faire ça? Il n'y a que lui qui le peut. Il le peut même en Corée du Nord. Les barbelés et tout ça n'arrêtent pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde entier. Alors, avec ses ouvriers ou seul, il agit. Et en premier lieu, il cherche à convaincre les hommes. Agissant pour nous, il veut nous convaincre. Et tout ça d'une double manière. D'abord, en ce qui concerne ce qui est à délaisser. Et il veut nous convaincre à ce niveau de péché, de justice et de jugement. Il veut nous montrer ce qu'est le péché et ce qu'est le péché dans notre vie. Et nous faire comprendre que Dieu est en colère. Et il veut nous amener dans une tristesse. Et le fruit de la conviction, de cette première conviction du Saint-Esprit, s'appelle la repentance. Mais c'est une tristesse qu'on ne regrette jamais. Parce que ce n'est pas une tristesse qui nous laisse dans la culpabilité, dans la condamnation, mais c'est une tristesse qui nous amène vers le salut et la rédemption. Parce que la deuxième chose dont le Saint-Esprit veut nous convaincre, ce n'est plus une chose en l'occurrence, c'est une personne, c'est de Jésus-Christ. Il veut nous convaincre de qui est Jésus-Christ et de ce que Jésus a fait pour nous. Et là, le fruit de cette conviction, l'opération de cette conviction, ce n'est plus la repentance, mais c'est la foi. Le Saint-Esprit fait naître la foi dans nos cœurs. La foi vient de ce qu'on écoute, la parole de Christ, la conviction du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Cette œuvre de conviction se fait d'abord à travers la prédication de l'Évangile de Jésus. Une prédication qui ointe, et je dirais même pétrie du Saint-Esprit, devient une force de persuasion. Ce n'est pas l'habileté, l'éloquence, la facilité de communiquer d'un homme qui amène un autre homme ou une femme à cette conviction que Jésus est Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit. Si ce n'est que les capacités de l'homme, ça n'amènera pas bien loin celui qui écoute. Mais ce qui fait le changement et la puissance, c'est le Saint-Esprit. Paul écrivait dans 1 Thessaloniciens, et vous savez que dans cette ville de Thessalonique, il n'est resté que 3 sabbats, 3 semaines pour prêcher l'Évangile avant de devoir partir sous la pression des persécuteurs. Et Paul écrit, 1 Thessaloniciens 1, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit, et avec une pleine persuasion, on pourrait faire des discours et des discours et des discours, et nous en avons entendu ces temps-ci, mais une seule parole pleine du Saint-Esprit peut faire changer une vie. En 3 semaines, eh bien, ces hommes et ces femmes se sont donnés au Seigneur. Parce qu'une telle prédication pleine du Saint-Esprit devient alors, comme l'Écriture le dit, une épée vivante, pénétrante et tranchante, dans le but de produire cette double conviction dans le cœur de l'homme. Maintenant, il appartient à l'homme de recevoir cette parole et cette action de conviction. Parce que même si Dieu veut le salut de tous les hommes, et entre parenthèses, il connaît par avance qui répondra favorablement, mais si Dieu veut le salut de tous les hommes, beaucoup ne le recevront pas, et il le sait, mais il n'empêche qu'il veut que sa parole soit prêchée. Mais beaucoup ne le recevront pas et ne se laisseront pas convaincre par cause d'incrédulité, d'orgueil, d'indifférence ou de religiosité, de tout ce que vous voulez, avec le risque de ce que le Saint-Esprit ne soit plus pour eux, mais qu'il devienne contre eux. Parce qu'à force de repousser le Saint-Esprit peut finalement se retourner. Vous savez que c'est écrit au sujet d'Israël dans le livre du prophète Ésaïe. Il se tourna contre eux, contre le peuple à un moment. Mais je crois que, attention, ça ne se fait pas simplement après un nom. Le Saint-Esprit est extrêmement patient, extrêmement doux et extrêmement convaincant, gloire au Seigneur. En tout cas, ceux qui auront entendu la parole du Seigneur et surtout la parole de conviction du Saint-Esprit, mais qui l'auront refusée, seront jugés par rapport à ce refus, malheureusement. Mais à ceux qui reçoivent la parole et cette conviction, le Saint-Esprit donne alors le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1,12. Et on ne devient pas enfant de Dieu par notre volonté, mais par la volonté du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, cette œuvre de conviction de l'Esprit ne se manifeste pas seulement et seulement à travers la prédication de l'Évangile. L'Évangile, la prédication, c'est le moyen privilégié et général, mais ce n'est pas le seul. Le Saint-Esprit peut révéler la personne de Jésus à travers des songes et des visions. Et pour avoir entendu ces témoignages, je sais que déjà au milieu de nous, certains qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus sont venus au Seigneur à travers une vision, un songe que le Saint-Esprit leur a donné. Et puis, il agit aussi à travers les œuvres de puissance, guérison, délivrance, parole de connaissance, exaucement, providence, on pourrait même dire. Toutefois, rappelons-nous ceci. Une œuvre de puissance ne signifie pas que la personne qui en bénéficie se soit repentie et ait reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Je vous rappelle les 10 lépreux dans les évangiles. 10 lépreux qui s'approchent du Seigneur et dans sa grâce, en les renvoyant, le Seigneur les guérit. Mais sur les 10, combien sont revenus vers le Seigneur ? Un seul. Et c'était un étranger, un Samaritain. Où étaient passés les autres ? Rappelons-nous de Bethsaïda, de Chorazine et de Capernaum, ces villes de Galilée, où Jésus a abondamment prêché l'Évangile, où Jésus a accompli de nombreux miracles, guérisons, même des résurrections, etc. Enfin, tout ce que le Seigneur a fait dans ces villes. Et à un moment, le Seigneur a dit, mais malheur à toi, Bethsaïda, Chorazine, Capernaum, avec tous les miracles et la puissance de Dieu que tu as vus, tu ne t'es pas repenti. Ces œuvres de puissance, néanmoins, demeurent avant tout des démonstrations d'amour et de grâce de la part d'un Dieu qui aime tous les hommes. Même les pécheurs. Et Dieu, dans sa grâce, peut guérir un pécheur, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est son amour. Mais il le fait aussi dans le désir de toucher leur cœur. Il touche un corps pour toucher un cœur, afin que ce cœur vienne à lui. C'est ça le désir du Seigneur, c'est que ces œuvres de puissance, ce ne sont pas des finalités en elles-mêmes, mais ce sont des moyens par lesquels il révèle son amour afin d'attirer les hommes à lui. Ainsi, le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu des hommes, pour nous. C'est sa première mission. Et je voudrais dire que ce matin, il est présent au milieu de nous. Et il est présent au milieu de nous, je le crois, au moins pour une personne. Peut-être pour toi, mon ami. Toi qui es là dans ce lieu pour l'une des premières fois, peut-être la première fois. Dieu est là pour toi, le Saint-Esprit est là pour toi. Pour te convaincre. Lui, beaucoup mieux que moi, mais lui peut le faire en cet instant. Te convaincre de la situation dans laquelle tu es devant Dieu, mais aussi te convaincre de l'amour du Seigneur. Et de ce désir que Dieu a de te ramener vers lui. Le Saint-Esprit peut faire ça ce matin. Je veux croire qu'il est là pour au moins quelqu'un en ce lieu. Que vous puissiez recevoir l'amour du Seigneur, que vous puissiez vous laisser convaincre par le Saint-Esprit et vous découvrirez alors tout ce que Dieu en réserve pour vous. Alléluia. Ça, c'est donc la première position, facette du ministère du Saint-Esprit pour nous et c'est une œuvre de conviction. Passons à la deuxième facette en nous. Quelques moments avant de donner sa vie pour les hommes à la croix, Jésus l'avait promis à ses disciples, il sera en vous, Jean 14, 16. C'est donc le deuxième temps du ministère du Saint-Esprit en faveur des hommes, c'est celui où il agit en nous. Mais attention, il ne peut agir en nous que si nous l'avons laissé œuvrer pour nous. C'est-à-dire si nous avons accepté son œuvre de conviction. Il ne faudra donc rien en l'homme sur la base d'une simple adhésion intellectuelle ou traditionnelle ou même sur la base d'un acte sacramentel sur un sacrement. Le Saint-Esprit agira en nous que si nous avons accepté son œuvre de conviction et s'il voit en nous le fruit de la repentance et de la foi. Et s'il voit cela, Dieu accorde à l'instant même le pardon des péchés. Si Dieu voit que le travail de conviction s'est accompli dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'on va appeler, il va avoir le pardon des péchés. Et à ce moment-là, on va passer à la deuxième étape. Et le Saint-Esprit va venir en l'homme. Il va venir en nous. pour accomplir une œuvre extraordinaire qui s'appelle le renouvellement. Pour nous, la conviction, en nous, le renouvellement. Et ce renouvellement, il y a deux étapes dans ce renouvellement. La première est immédiate. Elle s'appelle la régénération. Et elle concerne notre esprit. La deuxième étape est progressive. La première est immédiate, la deuxième est progressive. Et elle s'appelle la sanctification ou la transformation. La régénération, c'est un terme de l'apôtre Paul dans l'Épître à Tite, chapitre 3, verset 5, où il parle du baptême de la régénération et du renouvellement de l'esprit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, Jésus parlant à Nicodème, lui parlait de la vie nouvelle ou vie d'en haut. Et il disait à cet homme qui pourtant était âgé, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Pourtant, Nicodème était aussi un docteur en Israël, quelqu'un qui connaissait abondamment la parole de Dieu. Et il lui a dit, eh bien, ni ton âge, ni ta religion ne suffisent, il faut que tu naisses de nouveau. Et ce matin, de la part du Seigneur, eh bien, peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'entendre aussi cette parole, il faut que tu naisses de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Il ne s'agit pas ici de naître de chair et de sang. Nous l'avons fait une fois, c'est suffisant. Mais là, le Seigneur nous appelle à naître d'esprit. Car aux yeux de Dieu, l'homme naturel est séparé de lui à cause du péché. Et à cause de cette séparation, notre esprit est mort. Il est englué dans le péché. Il est mort. Il est déconnecté de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit vient travailler pour nous, lorsqu'il vient là pour nous convaincre, et que nous acceptons son œuvre, cette conviction de péché, que nous acceptons de croire, que nous laissons gagner par ce message de l'Évangile, eh bien le Saint-Esprit vient comme extraire notre esprit qui est englué dans le péché et il le reconnecte à Dieu. Et c'est une vie nouvelle. C'est une naissance nouvelle. C'est une œuvre de régénération. Notre esprit qui était mort est régénéré. Il revient à la vie. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. De 1 Corinthiens 3, 16, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et Dieu nous voit alors d'une manière tout à fait particulière. Il nous considère comme des habitations de Dieu en esprit. Nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Le Dieu infini, illimité, vient habiter en nous par son esprit. Et ce n'est pas une petite portion, un fragment de Dieu qui vient habiter en nous. C'est tout Dieu. Dieu ne se découpe pas. Mais Dieu vient tout entier en nous. C'est l'œuvre de la régénération. Mais cette œuvre, elle est au niveau de l'esprit. Aussi, le renouvellement, je vous l'ai dit, ne s'arrête pas à l'œuvre de la régénération qui, elle, est immédiate à partir du moment où nous croyons. Mais cette œuvre immédiate est suivie par une autre œuvre immédiate en nous, pardon, une autre œuvre en nous qui est progressive maintenant, c'est celle de la sanctification, transformation. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de vous dire que Dieu fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Or, là où Dieu habite, ça s'appelle un temple. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est précis, elle n'a pas dit le cœur. Parce que des fois, des chrétiens limitent les choses. Mon cœur est le temple du Saint-Esprit, le corps c'est autre chose. Non, le corps tout entier est le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire. Alors, quand je parle du corps, je ne parle pas simplement du corps physique. Je parle de tout ce que nous sommes intérieurement, notre personnalité, nos émotions, notre intelligence, notre volonté, puis nos projets, nos actions, etc. Tout ce que nous sommes. Et on dit, waouh, ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Et on se dit, mais Seigneur, il y a quand même un écart entre moi, ce que je suis, et ce que devrait être une habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur le sait. Il n'empêche que dès le début, il nous voit comme une habitation de Dieu en esprit. Mais c'est un peu comme lorsque vous trouvez une belle maison à retaper. Je ne sais pas, une belle maison dans l'arrière-pays, en Normandie ou dans les Alpes. Quelle belle bergerie! Une comme je rêvais. Évidemment, il ne reste que deux murs en pierre et trois poutres. Mais déjà, vous la voyez. Ah, je viendrai prendre mes vacances et ma retraite là. Ah oui, ça, c'est ma maison. Et ouais, ok, mais il y a du travail. Oui, il y a du travail, mais je la vois déjà. Eh bien, vous voyez, Dieu c'est comme ça. Il nous voit comme son temple. Il n'y a que lui pour nous voir comme son temple. Mais le Saint-Esprit est le chef de chantier. Alors, Dieu a acheté les droits sur notre vie, nous lui appartenons, n'est-ce pas? Ça a été signé, garanti, déposé devant le notaire. Nous sommes à Dieu et Dieu commence ses travaux. Et le Saint-Esprit va tout reprendre en nous. Alors évidemment, c'est comme la bergerie, ben, il va falloir du travail, il va falloir du temps. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Parfois même, on le reconnaît, il y a des choses qui montent et qui finissent par s'écrouler. Mais il va continuer son travail. Il va continuer son travail. Et le Seigneur va alors renouveler nos pensées, nos sentiments, nos centres d'intérêt, nos habitudes, en y remettant souvent de l'ordre. Il va nous apprendre à mener une vie digne de notre Seigneur. Nous apprendre à ne pas gaspiller inutilement notre vie, nos forces, nos temps, nos moyens, tout ce que nous avons. Et au fur et à mesure, il va édifier cette maison. Il va édifier le projet de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Son objectif est de nous rendre, c'est un mot de la Bible, conforme, c'est-à-dire semblable à Jésus. C'est une œuvre, et là encore c'est un mot grec, de métamorphose. C'est le mot grec, métamorphose. Et pour certains, on peut dire, ah oui, ça c'est certain, entre ce que j'étais et ce que je suis devenu, c'est une véritable métamorphose. Moi-même, je ne me reconnais plus, mais alors ceux qui sont autour de moi, ils me reconnaissent encore moins. Mais gloire au Seigneur, ce que nous étions n'est plus. Et ce que nous sommes n'est pas encore tout à fait, parce que demain, nous serons meilleurs que ce que nous sommes encore aujourd'hui. Parce que même si avec le temps, notre corps fatigue un petit peu, notre être intérieur, lui, ne cesse de se renouveler. Parce que cette œuvre est continue. Si la régénération est immédiate et on est régénéré une fois pour toutes, d'accord, on ne naît à chaque fois qu'une fois pour toutes, eh bien c'est pareil, on ne naît dans aucune fois pour toutes, on est régénéré qu'une fois pour toutes, tout comme on ne vient à la vie qu'immédiatement. Bon, eh bien voilà, mais ensuite, l'œuvre de transformation, métamorphose, renouvellement, sanctification, elle est continue et progressive. Comme Paul écrit dans 2 Corinthiens, elle nous amène de gloire en gloire. Toujours de meilleur en meilleur, et le Seigneur nous permet d'avancer. Et l'une des choses les plus évidentes de cette œuvre de transformation, c'est ce que Paul appelle le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est quoi ce fruit? C'est le caractère de Jésus. C'est le caractère de Jésus. Et avec le temps, le Seigneur va transformer notre caractère à l'image, à la conformité de celui de Christ. Bien sûr, il y a du travail. Et je pense qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail en chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit continue son œuvre. Rappelez-vous de cette prédication. Sommes-nous argile ou granit? Dieu sera-t-il avec nous potier ou sera-t-il sculpteur? Nous lui appartenons, il veut faire le travail. Il le fera. Il le fera avec nous, il le fera en fonction de nous. Comment nous agissons? Et c'est pour ça qu'il y a deux choses qui sont toujours très importantes. Je vous ai déjà dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des sacrificateurs. Alors souvent, on parle d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, des sacrifices de libéralité, etc. Oui, mais le premier sacrifice que nous devons offrir, Romains 12, ce sont nos corps. Avant de parler des lèvres, il faut d'abord nos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Dieu ne veut pas de nos corps morts, il veut de notre vie. Hein. On lui offre notre vie. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, c'est complètement différent. Et on lui offre notre vie. On lui offre toujours plus notre vie, avec cette idée que nous allons toujours plus vers lui pour fuir toujours plus ce que nous laissons derrière. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le grand écart au fur et à mesure entre Dieu et le monde passé. J'essaie d'être dans les deux sens. Non, ce n'est pas possible. Je fuis le monde. Parce que si je veux que Dieu fasse son œuvre en moi, il faut que je fuie de plus en plus le monde. Les habitudes passées, ma vie passée, mon caractère passé, parfois même mes relations passées. Je mets tout ça derrière parce que je veux vivre tout entier de plus en plus le projet de Dieu dans ma vie. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Alléluia. Alors, pour nous, l'œuvre de conviction, en nous, l'œuvre de renouvellement, régénération plus transformation. On arrive à la troisième étape, après pour nous, en nous, avec nous. Jésus l'a dit aussi à ses disciples, le Saint-Esprit demeurera avec vous. Jean 14, 17. Lui, il parle au futur, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, puisqu'il n'avait pas été glorifié. Mais depuis qu'il a été glorifié, le Saint-Esprit a été donné, et nous ne parlons plus au futur, mais nous disons, comme à la fin de l'évangile de Marc, il demeure avec nous, il est au milieu de nous. Il est question là du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce mot, on l'a étudié l'année dernière, paraclète, parakletos en grec, qui veut dire celui qui est à côté. Les traductions en français d'un paraclète, c'est défenseur, conseiller, avocat, ami, et je pourrais encore ajouter, un que j'aime par-dessus tout, compagnon. Il est notre compagnon. Notre compagnon de vie, notre compagnon de service, notre compagnon de marche dans la foi, qui se tient à nos côtés à chaque instant et en chaque situation de notre vie sans jamais nous abandonner. Il est pour nous, il est en nous, il est avec nous dans ce monde. Il n'est pas simplement avec nous là, dans l'Église, il est avec nous dans notre vie de tous les jours, dans notre famille, quand nous allons au travail, il est avec nous dans notre santé, il est avec nous dans notre argent, il est avec nous dans nos études pour les plus jeunes, etc. Il est avec nous en toute situation. Il est Dieu présent avec nous qui désire nous assister. Avec nous, assistance, conseil, c'est le mot de Paul. Il est avec nous, mais sommes-nous toujours conscients de sa présence ? Autrement dit, si lui est avec nous, nous sommes-nous avec lui ? Ou oublions-nous trop souvent qu'il est avec nous ? Évidemment, nous ne le voyons pas. C'est vrai, nous ne le voyons pas. Mais n'empêche qu'il est là. Et son désir, c'est de développer avec nous une réelle relation d'amitié, d'encouragement, de conseil. Et pour cela, il faut apprendre à l'écouter et à lui parler. Et donc, à reconnaître sa voix VOIX et à reconnaître ses voix VOIES. Et pour reconnaître ses voix VOIES, il faut d'abord reconnaître sa voix VOIX. Je vous l'ai souvent dit, pour bien prier Dieu, j'ai besoin de parler longtemps avec le Saint-Esprit. Et tous les jours, j'aime marcher avec le Saint-Esprit. Oui, on va se promener tous les deux. Et pendant les temps de promenade, on parle ensemble. Je parle avec lui, je l'interroge, et puis je me porte à l'écoute de ce qu'il a à me dire. Et ça fait du bien de parler avec le Saint-Esprit. Et en parlant avec le Saint-Esprit, je laisse Dieu sonder mon cœur, et puis je sonde aussi le cœur de Dieu à travers lui, pour essayer de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et plus on parle avec le Saint-Esprit, et des fois, c'est en parlant en langue aussi. Eh bien, parce que le parler en langue, c'est aussi notre esprit qui communique avec le Saint-Esprit. Mais la volonté de Dieu grandit dans mon cœur, elle s'éclaircit, elle se fait de plus en plus compréhensible. Et du coup, après avoir bien parlé avec le Saint-Esprit, je suis plus à même de prier Dieu, avec foi. Parce que je sais ce que le Saint-Esprit attend de moi, ce qu'il m'a montré. Alors, il veut être notre ami. Il est Emmanuel, il est Dieu avec nous, Dieu parmi nous, il veut être notre ami. Mais être un ami, évidemment, des fois il y a des amitiés qui se créent comme ça, il y a des atomes crochus, et il y a avec le Saint-Esprit, il est tellement amical, il y a vraiment plein, facilement on peut avoir des atomes crochus avec lui. Quoique c'est vrai que des fois certains ont peur du Saint-Esprit, parce qu'ils se demandent qui il est. Mais je vous ai dit, c'est un ami qui ne demande qu'à se laisser découvrir, il est merveilleux. Mais avec lui, une véritable amitié, vous savez, on peut avoir des copains, ouais, des collègues, mais un ami, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement. Et donc, il faut apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Comme je le disais déjà, en se rappelant qu'il est avec nous. Et donc, apprendre ensuite à le chercher. Au lieu de nous précipiter vers les uns, vers les autres, sur le téléphone, sur ceci, sur cela, il est là. Prenons le temps de parler avec lui. Tournons-nous vers lui. Et en développant cette relation d'amitié, nous allons grandir dans la foi. Et puis, nous nous épargnerons aussi bien des efforts, bien des soucis, bien des désillusions, bien des échecs, bien des souffrances. Parce que lui connaît le chemin. Lui, il a une vue d'ensemble. Et je préfère compter sur lui que compter sur les hommes. Et je veux dire, même au contraire, nous gagnerons avec lui en efficacité, en tranquillité, en repos, en joie, en gain de toutes sortes, en amour, en amitié, en santé, etc. Mais d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit, ça demande de la foi, de l'obéissance, de l'audace, de la persévérance, de la piété aussi, hein, de la sainteté, parce que le Saint-Esprit, même s'il nous accompagne, à des moments, il dit, non, ça, je ne peux pas cautionner. Quand je dis qu'il nous accompagne, il est avec nous en toute situation, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à tout cautionner, le Saint-Esprit, d'accord? Donc, il faut apprendre à le suivre. Et puis, ça nous demande aussi un moment d'accepter avec lui, d'accepter que le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre, que les voies de Dieu ne sont pas forcément les nôtres, que la volonté de Dieu n'est pas forcément la nôtre, mais que son temps, sa volonté et ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. Je vous disais que suivre le Saint-Esprit nous épargnera bien des soucis, des désillusions, etc. Mais il y a des moments aussi, il faudra accepter dans cette marche avec le Saint-Esprit, et ça pour la gloire de Jésus, il faudra parfois accepter des pertes, des séparations, et même, la Bible dit, des épreuves qui pour certains peuvent devenir des tribulations et des persécutions. Mais deux choses. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes mes disciples parce que vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et vaut mieux persévérer dans les épreuves du Saint-Esprit que de foncer tête baissée dans les nôtres. Parce que si je suis dans les épreuves du Saint-Esprit, même si parfois ça nous demande de quitter des choses, « Ah Seigneur, c'est dur ce que tu me demandes là. » Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Il n'a pas dit qu'il nous conduirait sur notre route. Il a dit qu'on passerait par le chat de l'aiguille. Et puis il nous a dit ensuite que le chemin est étroit et resserré. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais il a promis aussi qu'il nous rendrait au centuple. Qu'il nous rendrait au centuple. En frère, en bien, que ce soit dans l'éternité à venir ou sur cette terre. Mais dans tout cela, quelles que soient les choses un peu difficiles dans lesquelles le Saint-Esprit peut nous conduire, je sais que nous serons toujours plus que vainqueurs. Parce que lui, il connaît la fin. Il connaît la fin. Et en plus, rien dans ce monde ou dans le monde spirituel ne pourra nous séparer du Saint-Esprit. Je préfère le chemin resserré avec le Saint-Esprit que l'autoroute des hommes. N'est-ce pas? Alors, on a vu les trois premiers, donc pour nous l'œuvre de conviction, en nous l'œuvre de renouvellement et avec nous l'œuvre d'assistance. J'insiste beaucoup sur cet avec nous. Parce que surtout nous, pentecôtistes, on a trop souvent passé par-dessus avec nous. Oui, pour nous, en nous, ok, en nous. Et puis dans nous, on passe directement à sur nous. C'est-à-dire qu'on va directement sur le côté puissance. Et on a trop souvent ignoré ce côté du paraclète, du conseiller, de l'assistance du Saint-Esprit. Or, si on veut vraiment être efficace dans la puissance, à mon avis, il faut d'abord être fort dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la relation avec lui. Et plus nous serons forts avec lui, et nous serons capables ensuite, dans ce qui vient à la troisième étape, c'est-à-dire sur lui. Alors donc, jusque-là, dans ces trois premières facettes du ministère du Saint-Esprit en faveur des hommes, nous avons parlé du Saint-Esprit au milieu de nous, en quelque sorte, c'est-à-dire pour nous, en nous, avec nous. Et dans ces trois dimensions, je vois les choses ainsi, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui amène au milieu de nous ce qui est céleste, divin, dans notre vie. Voilà. Il nous amène, il fait descendre le ciel sur nous. Mais le projet de Dieu et le ministère du Saint-Esprit ne s'arrêtent pas là. Il veut ensuite nous amener, nous plonger à notre tour dans son monde à lui. Une dimension de puissance, de gloire, de surnaturel et d'infini. Nous lui avons donné accès à nos vies, il veut nous donner en retour accès à son monde. Nous plonger dans son monde. Et c'est là l'une des plus importantes promesses de toutes les Écritures. Elle fut annoncée par les prophètes depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Voici, il vient celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il ne le connaissait pas, mais un jour il le vit venir à lui et il vit l'Esprit de Dieu sous une forme corporelle de colombe descendre sur lui. C'était Jésus de Nazareth. Et juste avant de repartir vers son Père, Jésus le confirma à ses disciples. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. 10 jours plus tard, au jour de la Pentecôte, Le Seigneur, depuis le ciel de gloire, a répandu le Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur les disciples. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes 2, 3 et 4. Et la promesse n'était pas que pour ces 120, n'était pas que pour ces premiers apôtres réunis ce jour-là à Jérusalem. Mais le même jour, l'apôtre Pierre l'annonça de la part du Seigneur. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur continuera de les appeler. Jésus continue de nous appeler. Et la promesse est encore pour nous aujourd'hui. Lorsqu'il entra dans la synagogue de Capernaum, le Seigneur fit sienne les Écritures d'Ésaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et si Jésus a eu besoin de l'Esprit de Dieu sur lui, à plus forte raison, nous aussi nous en avons besoin. Et avec le Saint-Esprit sur nous, nous pourrons accomplir des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui encore, non seulement le Saint-Esprit veut être pour nous, en nous, avec nous, mais il veut aussi nous plonger, nous baptiser, nous immerger dans son monde à lui. Monde surnaturel, de puissance et d'infini, et il veut nous revêtir ainsi de toute sa puissance et nous donner accès à tout un équipement d'armes spirituelles extraordinaires, les dons du Saint-Esprit et les ministères qu'il tient en réserve pour nos vies. Alors la promesse est encore pour nous aujourd'hui. Non pour un bénéfice personnel, mais pour l'accomplissement de la mission qu'il nous confie, dont nous avons parlé au début, être des témoins de Jésus-Christ depuis là où nous sommes, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'où le Seigneur nous conduira. Je me réjouis de voir plusieurs de nos jeunes de l'Assemblée se lever pour le ministère, d'en voir plusieurs dans différentes écoles bibliques. Je me réjouis aussi d'en voir plusieurs être en mission ou bientôt s'apprêter à partir en mission. Ce matin, j'entendais encore au sujet d'une jeune femme de l'Église qui va partir au loin. Quelle joie de voir ça, c'est le fruit de l'Église. Et je sais que d'autres ont à cœur de relever le défi de Dieu pour leur vie. Mais en ce lieu, tout en restant à Paris ou là où vous êtes, Dieu peut vous amener bien au-delà de tout ce que vous avez demandé ou imaginé. Il peut vous permettre d'atteindre des extrémités que vous ne soupçonnez pas. Ce ne sera peut-être pas des extrémités géographiques, mais pourquoi pas des extrémités dans votre domaine professionnel ou dans un domaine que vous n'imaginez pas, rencontrer des gens. « Seigneur, comment tu me fais pour rencontrer tel homme, telle femme, avoir accès à telle position ? C'est au-delà de mes forces. » Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est capable de cela. La puissance du Saint-Esprit est capable de nous ouvrir des portes que nous pensions absolument inaccessibles. Alors cette puissance est donnée non pas à des super-héros, ou à des méritants, ou à des diplômés, mais elle est donnée à tous ceux qui croient. Et c'est-elle cette puissance qui fait de chacun d'entre nous, même du plus faible au milieu de nous, des super-héros s'il accepte de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans l'œuvre qu'il tient en réserve pour leur vie. Alléluia. Je vous ai donc présenté aujourd'hui 4 actions que le Saint-Esprit mène en faveur des hommes. Juste ce point. Ces actions, ce n'est pas des étapes à valider. Bien sûr, la première est incontournable pour nous, ça il faut tous passer par là. Mais ensuite, il ne s'agit pas de faire premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. En fait, elles sont pour nous à partir du moment où on croit. Elles peuvent être concomitantes. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui naît de nouveau, au même instant, peut être baptisé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu. Hein. Parfois même, c'est l'inverse. Donc, il n'y a pas d'ordre, hein, il n'y a pas de progression, mais il y a différentes dimensions à vivre. Et en même temps, on n'est pas appelé à se spécialiser dans une dimension. Ah, moi, je suis spécialisé dans la dimension de la puissance. Oui, bah, tu ferais bien aussi de te rappeler qu'il y a besoin que le Seigneur travaille en toi. Ah oui, mais moi, le Seigneur travaille beaucoup en moi. Oui, mais qu'est-ce que tu en fais ? Vous voyez ? Ou alors tu as la puissance, oui tu as la puissance, mais si tu laissais le Seigneur te conduire un peu mieux, cette puissance ça serait un peu plus utile. Vous voyez, on peut pas séparer les trois et vivre simplement de l'un des trois. Je ne parle pas pour nous, je parle dans nous, avec nous et sur nous. Il faut vivre les trois, parce qu'on ne découpe pas le Saint-Esprit. Malheureusement, ce qui est triste, c'est que l'Église a souvent vécu qu'un aspect des choses. Certes, il a fallu du temps pour que l'Église retrouve ces trois dimensions. La réforme, c'est la restauration du « en nous », le salut par la foi, et non plus le salut par tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Et puis après, il a fallu, ça c'est Luther, c'est Jean Calvin, et puis le 18e siècle, avec John Wesley et tout ça, ça a été la redécouverte du travail en nous, c'est-à-dire le renouvellement de la sanctification. Et puis après, il y a eu cette assistance du Saint-Esprit. Et puis le 20e siècle, c'est véritablement celui de la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit avec nous et sur nous. Donc il a fallu du temps pour que l'Église retrouve ça. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'attendre 10 ans. Hein. L'Église n'est plus obligée d'attendre. Toutes ces choses, on a retrouvé ça, vivons-les passionnément. Alors, je vais essayer de bien réviser les choses avec vous. Je voudrais vraiment... Ah, si vous pouvez vous rappeler de cela. Non pas le vous en rappeler, le comprendre, mais encore plus le vivre, ça sera ma grande joie. Donc, on a vu 4 aspects du ministère, 4 facettes. D'abord pour nous, et c'est l'œuvre de conviction. Conviction de repentance, qui amène à une repentance et à la foi. Ensuite, en nous, 2 étapes. D'abord, l'immédiate, c'est la régénération, et l'autre progressive, c'est la... D'accord, ça c'est pour nous, c'est le renouvellement. 3e étape, c'est avec nous, c'est l'assistance, c'est la conduite. Dernière étape, sur nous, c'est la puissance. Vous pouvez le noter? C'est simple à se rappeler. Vous voyez, des fois, je me dis, on a voulu tellement... Il y a des livres de doctrine du Saint-Esprit, c'est des pavés, hein, c'est des monuments à lire. Même le Seigneur des Anneaux, il est tout petit à côté. Mais, et finalement, j'espère avoir été le plus simple possible, le plus clair possible, pour vous dire voilà ce que Saint-Esprit veut faire. Puissiez-vous toutes ces dimensions, les découvrir. C'est un ami extraordinaire, un ami merveilleux que le Saint-Esprit. Oui, il est Emmanuel, il est là, il est avec nous. Le Seigneur ne nous a pas menti quand il nous a dit qu'il nous était avantageux qu'il s'en aille, afin qu'il nous dote cet autre consolateur, cet autre lui-même. Mais rappelons-nous que Dieu chérit hein, l'Esprit, et même chérit avec jalousie l'Esprit qu'il fait vivre en nous. Je dis souvent, le Saint-Esprit, enfin je ne dis pas, mais beaucoup l'ont dit, le Saint-Esprit ce n'est pas un corbeau, hein, c'est une colombe. Et on le respecte. On l'aime. Il est une colombe, mais quand il déploie ses ailes, c'est celle de l'aigle royal qui peut s'élever dans toute sa majesté et sa puissance. Quel merveilleux Seigneur nous avons. Merci. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné, de nous tout nous avoir donné. Tout ce que tu pouvais nous donner, Père, tu nous l'as donné. Tu nous as donné un monde extraordinaire dans lequel nous vivons, une création merveilleuse. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la révélation de ta parole. Et tu nous as donné Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et tu nous as donné le Saint-Esprit, ton Esprit. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur, parce que tu combles nos vies. Parce que tu désires vraiment que nous puissions mener une vie complète, parfaite, atteignant tout ton projet, Seigneur. Et je prie pour que nous puissions apprendre à vivre toujours mieux avec le Saint-Esprit, de vivre avec lui, de nous laisser conduire par lui, de le laisser agir en nous. Oui, merci pour ton esprit, Seigneur. Et je prie pour que ce message, j'espère avoir été le plus simple possible, le plus clair, mais je prie maintenant pour que, plus que mes paroles, ce soit tes paroles qui soient gardées dans les cœurs. Et que, Seigneur, ce message soit qu'une semence qui va produire du fruit au centuple. Pour que mes frères et sœurs grandissent et marchent toujours plus avec toi, Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, de faire de nous des fils et des filles de Dieu conduits par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen.